Shalom tout le monde, je voudrais qu'on continue aujourd'hui nos entretiens sur la fête de Rosh Hashanah. Vous vous rappelez qu'il y a tout un débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua concernant la date de la création du monde. Est-ce que le monde a été créé en Tishri ou en Nissan? Il ressort du fait même qu'il y a une machloket, une controverse. Cela amène à la conclusion immédiate que la fête de Rosh Hashanah ne vient pas commémorer la création du monde. Parce que même si Rabbi Eliezer pense qu'à Rosh Hashanah le monde a été créé, Rabbi Yehoshua, lui, ne le pense pas. Or, Rabbi Yehoshua faisait la fête de Rosh Hashanah. Quand on lui demandait, mais Kvodara, pourquoi est-ce qu'on fait cette fête? Il ne répondait pas à la création du monde, puisqu'il pense que la création du monde était en Nissan. Donc il avait une autre raison sur la fête. Nous sommes arrivés à la conclusion sur la base de la Gemara que la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté, c'est-à-dire de la fin de la servitude de nos ancêtres en Égypte, et c'est ça qui a fixé pour l'éternité une fête ce jour-là, merci beaucoup, le premier du septième mois, le premier jour du septième mois. Voilà, d'accord. Là, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail de la controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. N'est-ce pas? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais rentrer un peu plus dans la profondeur de la controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. C'est un sujet que nous avons évoqué la semaine dernière. Ah, gravissime. Pourquoi tu n'étais pas là? Il est arrivé la semaine dernière. Bon, c'est pas grave. On va essayer de s'en remettre. Mais en tout cas, donc, je reviens à ce que nous disions tout à l'heure. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ne sont pas d'accord pour la date de la création du monde. Maintenant, vous vous rappelez, quel est le jour de l'année où commence l'année selon les Juifs? Le premier du mois de Nissan, évidemment, n'est-ce pas? C'est-à-dire la fête de Rosh Hashanah, paradoxalement, qui s'appelle début de l'année, tombe en plein milieu de l'année, le septième mois. Oui, pour les rois d'Israël. Pour les rois d'Israël, on commence en Nissan. Mais l'homme est jugé, mais l'homme est jugé, c'est pas une raison de faire un Rosh Hashanah. On est également jugé à Pessah pour la récolte, on est jugé à Shavuot pour les fruits et à Sukkot pour l'eau. Et oui, alors, bon, d'accord, je sais pas, c'est pour autre chose. Donc, les jugements, mais non, le jugement n'est pas une raison de faire Rosh Hashanah. C'est deux choses différentes. De même que, par exemple, qu'il y a une fête des lumières à Hanouka, ça ne fait pas de Hanouka à Rosh Hashanah. Il y a une fête pour les fruits à Toubishvat. Oui, mais c'est. D'accord, mais il n'y a pas de corrélation évidente. Par exemple, c'est-à-dire que le fait qu'il y a une fête pour quelque chose, ça n'en fait pas un Rosh Hashanah. D'accord? Donc le fait qu'on ait jugé le jour de Rosh Hashanah ne justifie pas l'appellation de Rosh Hashanah qui est donnée à cette fête. D'accord? C'est ça le problème. Oui, et oui, alors, mais c'est pas que du jugement. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'année juive, d'après la Mishnah, au début de Maaseret Rosh Hashanah, l'année juive commence en Nissan. D'accord? C'est la raison pour laquelle les rois d'Israël comptent leurs années à partir de Nissan. Tandis que les rois des Goyim comptent leurs années à partir de Tishré, donc c'est le nouvel an des Goyim. Et on avait étudié la semaine dernière, longuement, pourquoi est-ce que la Torah a introduit le Rosh Hashanah des Goïm dans le calendrier des Hébreux, quelque chose d'assez surprenant. Et on avait vu également la semaine dernière qu'il y a en fait deux conceptions différentes du temps, qui sont la conception dominante chez les nations et la conception dominante chez les Hébreux. Et c'est une différence entre le pessimisme et l'optimisme. D'accord ? C'est-à-dire, si je considère que l'année commence en automne, ça veut donc dire que le temps est un temps de l'automne. C'est-à-dire que l'automne est le représentant le plus fidèle de ce qu'est le temps, c'est-à-dire la chute. La chute, la dégradation, la disparition, la mort. C'est-à-dire, comme on dit, c'est le temps qui nous tue. Et c'est vrai, comme disait le grand Goy Paul Valéry, les civilisations se savent mortelles. Par contre, l'opinion des Hébreux, c'est que le temps commence au printemps. Le printemps, c'est le moment du renouvellement. C'est-à-dire, nous affrontons l'histoire avec une connaissance intérieure. Nous savons que nous sommes éternels. Ce savoir éternel, c'est vachement chouette. C'est-à-dire qu'on va commencer, on entre dans l'histoire en sachant qu'on est là pour l'éternité. Et donc, le temps ne fait qu'accumuler sur nous des expériences. de plus en plus enrichissante. D'accord ? Vous avez compris ? C'était ça donc la différence entre Israël et les nations. Israël a une vision optimiste du temps, qu'on appelle en hébreu Chodesh, qui vient du mot Chidush, le renouvellement, tandis que les goyim ont une conception du monde qui s'appelle Shana, c'est-à-dire l'année, ça vient du mot Shinui, c'est-à-dire transformation. Et la transformation, le changement, c'est ça qui nous assassine, qui nous fait disparaître, qui nous balaie. N'est-ce pas ? D'ailleurs, en hébreu, il y a un mot pour dire quelque chose qui s'use. Comment on dit ça en hébreu ? Quelque chose qui s'use ? Balai. Ouais, balai. Ouais. L'usure, belay. D'accord ? Des paroles en vain, du bla bla bla. Enfin, pour ça, n'a rien à voir. Et donc, nous avons deux conceptions. Maintenant, pourquoi est-ce que la Torah a introduit le temps des nations dans le temps d'Israël ? Eh bien, c'est pour faire la rédemption des goyim. C'est-à-dire pour amener une élévation de l'ensemble du monde à travers Israël, que le Rosh Hashanah des goyim est introduit dans le calendrier des Hébreux. Vous avez compris jusqu'à présent ? Ça, c'est, disons, un peu un résumé de ce que nous avons vu à la fin de la dernière fois. Là, je voudrais rentrer plus dans le détail. On a dit donc que les goyim ont une conception du monde qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entropie, dans le monde scientifique, n'est-ce pas ? Comme quoi, le monde est en train de perdre, enfin, depuis son origine, perd sa force énergétique, il va en disparaissant. Finalement, on aboutira à un cosmos vide, noir et froid. Et tandis que l'opinion optimiste dit que la vie l'emporte. Il y avait un philosophe du nom de Bergson qui disait que la vie est tellement forte qu'un jour, c'est elle qui va avoir la victoire, la mort disparaîtra. Pfff, merveilleux. Et question de savoir qui est-ce qui a raison. Est-ce que c'est les goyim qui ont raison ou est-ce que c'est Israël qui a raison ? Et pour tout vous dire, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Vous vous rappelez quelle était la marloquette ? Ça consistait à savoir... La main, Tom Rizizé. Ça consistait à savoir si le monde a été créé en Nissan, ou s'il a été créé en Tishré. C'est-à-dire, si je dis que le monde est créé en Tishré, ça veut dire que c'est les goïms qui ont raison. Qu'ils décrivent réellement l'état du monde. Le monde commence par un automne. Et si je dis comme Rabbi Yehoshua que le monde a été créé en Nissan, ça veut dire que c'est les juifs qui ont raison, que le monde est optimiste. Hein ? Vous avez compris la différence ? Donc on peut dire que dans l'opinion de Rabbi Eliezer, il y a une intuition véritable des goïms quant à l'état du monde. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'il pense alors Rabbi Eliezer ? Ben, ça veut dire qu'il pense que quand Israël sauve le monde, on fait un acte surnaturel. Tandis que d'après Rabbi Yehoshua, c'est le contraire. C'est Israël qui a révélé à l'humanité tout entière la vérité sur le monde, que le monde est optimiste. Ça explique par exemple la résurrection des morts. Est-ce que la résurrection des morts, ça fait partie de l'ordre des choses ou est-ce que c'est quelque chose de surnaturel ?
Ça dépend
de Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Effectivement, il y a dans le livre d'Ézéchiel, comment est-ce qu'on dit en hébreu Ézéchiel ? Yehezkel. Contrairement aux francophones qui ont l'habitude de dire Yehezkiel, il faut dire Yehezkel. D'accord. J'ai déjà insisté dans le dernier cours. Si lui s'était trompé, d'accord, mais pourquoi est-ce que vous vous trompez ? D'accord. Et donc, dans le livre d'Ézéchiel, il y a une description de mort qui ressuscite. Tu vois, la vision des ossements desséchés. Vous connaissez ça ? Un chapitre, hein ? La tribu d'Éphraïm. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a tout un texte dans Sanhédrin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que cette histoire-là ? Mais il y a là-bas, parmi les cinq opinions amenées dans la Guémara, non, il y a là-bas sept opinions différentes dans la Guémara à propos de ce qui s'est passé là-bas. L'histoire de la tribu d'Éphraïm, c'est une des sept opinions, c'est pas la seule. Il y a là-bas, dans les deux premières opinions, sont celles de Rabbi Eliezer, et devinez qui ? Rabbi Yehoshua, très bien, génial. Vous avez le Ruach HaKodesh. Et là-bas, la Guémara dit comme ça. Les morts qu'Ézéchiel a ressuscités se sont levés, ont récité un cantique et sont morts. Ça a duré en tout donc 2 minutes. Le temps de réciter le cantique. Amdou al-Raglehem, Amrou Shira va mettre. Ils se sont levés sur leurs pieds, ils ont récité un cantique et sont morts. Et là, la Guémara demande Ezechira Amrou. Quel est le cantique qu'ils ont récité? Alors Rabbi Eliezer dit qu'ils ont chanté Hashem Mimit Betzedek ou Mechaye Berachamim. Dieu met à mort en justice, il ressuscite par miséricorde. Vous avez compris? C'est-à-dire que Dieu nous met à mort parce que c'est la justice de mourir. L'homme est imparfait, il fait des péchés, etc. De toute façon, l'homme est dégradé, c'est un être dégradé. Et donc, il se dégrade. Hachem émite, Betzedek, Dieu met à mort en justice. Alors, pourquoi est-ce qu'il ressuscite? Verachamim. C'est-à-dire, le fait que la vie revient, c'est quelque chose qui surmonte la nature. Jusque-là, c'est clair? Tandis que Rabbi Yehoshua, ça c'est l'opinion donc de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua dit non, pas du tout. Ils ont chanté autre chose. Ils ont chanté un verset du livre de Shmuel. Hashem memit umhaye morid sheol payam. Dieu met à mort et ressuscite. Il fait descendre dans la tombe et relève. Payam. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehoshua, la résurrection des morts, c'est comme un ballon que vous avez introduit dans la piscine. Qu'est-ce qui se passe quand vous le lâchez? Floup, il remonte. C'est-à-dire, l'état naturel des choses, l'état véritable, essentiel, c'est la vie. Et la chute est accidentelle. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui compresse, qui met dans la piscine. Mais vous allez voir tout de suite, dès que le contre-naturel aura disparu, eh bien le naturel reviendra au galop, il y aura la vie. D'accord? Vous avez compris tout ça? Eh bien, ça correspond exactement aux deux opinions concernant la création du monde. Si le monde est créé en Tishri, ou si le monde est créé en Nissan. Jusque-là, vous me suivez? Parce que là, je vais compliquer les choses. C'est pas clair ce que j'ai dit? Non, noter, c'est une chose. Comprendre en est une autre. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui. Tu veux que je parle plus lentement pour que tu aies le temps de noter? Je vais essayer de parler plus lentement. Un peu plus fort? D'accord. Merci. Oui? Comment Rabbi Eliezer peut avoir un avis si pessimiste? Rabbi Eliezer n'est pas du tout pessimiste, puisqu'il y a Israël. Mais pour lui, le peuple d'Israël, la mission d'Israël, est quelque chose d'extrêmement fort. Ça va contre la nature, mais ça marche. D'accord? C'est-à-dire, il y a une dualité entre la vie miraculeuse du peuple juif, avec la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu veux, et l'état du monde qui est mauvais. D'accord? C'est ça que dit Rabbi Eliezer. Il est pessimiste par rapport à la moitié de l'image, mais il est tout à fait optimiste par rapport à l'ensemble de l'image. Vous savez quelle est la différence entre un optimiste et un pessimiste? C'est que l'optimiste pense que l'on est dans le meilleur des mondes possibles. Et le pessimiste pense que c'est vrai. D'accord? Et donc, je vais continuer. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ont deux opinions différentes. Petite question. Qui, d'après vous, a le plus de sympathie pour le monde des goïms? A priori, il semblerait que c'est Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer exprime une opinion cosmopolite, comme quoi le monde a été créé en Tishri, que les goïms ont raison de penser ce qu'ils pensent, etc. D'accord? C'est la raison pour laquelle nous avons vu également que Rabbi Eliezer a affirmé que les Avot sont nés en Tishri et que la Géoula se fera en Tishri. N'est-ce pas? Mais en vérité, c'est le contraire. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'il y a, d'après vous, pour les Goïm, une part au Olam Haba? Oui, vous dites?
Oui,
ah, très bien. Mais juste parmi les nations, on part au Olam Haba. Qui c'est qui vous a raconté ces choses-là? Ah, tu l'as entendu quelque part. Le quelque part où vous avez entendu ça a entendu ça également de quelque part. Mais ça revient jusqu'à où? Dans la Torah, c'est pas écrit. C'est écrit dans la Gemara, dans Sanhedrin, et c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Exactement. Tandis que Rabbi Eliezer pense que les goyim n'ont pas de parole à Mabah. Bizarre quand même. Mais en fait, tout s'explique. Pour Rabbi Yoshua, les hommes ont parole à Mabah de manière générale. Bon, à moins qu'ils fassent des gaffes, mais dans l'ensemble, ils n'y ont pas. Et donc, ce qu'a fait le peuple d'Israël, il n'a fait que révéler quelque chose qui existait déjà. Pour Rabbi Eliezer, non, pas du tout. Il n'y a pas dans l'Amaba, il n'y a pas d'espoir. À moins d'être Israël. Vous avez compris? Ça veut dire que, paradoxalement, quand on est intéressé parfois au cosmopolitisme et qu'on pense qu'on fait du bien aux nations, en fait, on leur fait du mal. Oui?
De toute façon, si eux, ils n'étaient pas là, si eux, il n'y avait pas cette façon d'imprimer le monde, d'égoïsme, je parle. Mm-hmm. On n'aurait pas cette façon de détenir un petit rôle, en tout cas.
Oui, bien sûr.
Cette façon d'être considéré.
Absolument. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer pense qu'il faut convertir les goyim. Ou bien, d'après Rabbi Eliezer, ça veut dire que pour l'instant, Israël a eu sa rédemption, sa Géoula, mais les goyim ne l'ont pas eu encore. Alors ça vous explique maintenant une autre controverse que nous avons vue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua disait « Benissa nigalou, benissa matidim ligael ». Ils ont été sauvés, les Juifs, en Nissan. Donc, c'est en Nissan qu'ils seront sauvés. On a vu que c'est une date qui marche. N'est-ce pas? Nissan, ça marche bien. Alors, comme disent les ingénieurs, ça marche, ne touche pas. D'accord? Nissan, ça marche, on reprend en Nissan. Rabbi Eliezer dit non, mais pas du tout. Benissan Nigalou, c'est en Nissan qu'ils ont été sauvés. Betishré atidin de Igael, ils seront sauvés en Tishré. C'est-à-dire que pour Rabbi Eliezer, étant donné que la sortie d'Égypte a été un échec, puisque ça n'a sauvé qu'Israël, donc il faut changer de date. On va déplacer la prochaine Géoula en Tishré, et alors là, ça marchera pour les nations. Vous avez compris? C'est-à-dire que pour Rabbi Eliezer, on est encore dans une sorte de préhistoire pour les nations, et nous sommes en train de préparer, avec nos fêtes de Tishré, la rédemption des Goïm dans le temps à venir, en particulier lors de la fête de Soukha. Vous avez compris? Maintenant, tout ce que je vous ai dit là, c'était un peu plus compliqué. Mais là, je vais aller encore un peu plus compliqué. Jusque-là, vous avez compris? Bon. Il y a, dans ce que je dis, des conséquences très importantes par rapport à une perplexité qui existe chez les goyim. Ce qu'on appelle, de manière très très schématique et inexacte, la droite et la gauche en politique. Vous connaissez ça? Bon. La droite et la gauche en... Quoi?
Ils sont un peu
lourds
avec ça.
Le problème, c'est que ça exprime une tension réelle dans l'être humain. Et là, je vais essayer d'être un peu plus explicite. Je vais être obligatoirement schématique, mais j'espère que vous allez comprendre les nuances quand même. Il y a deux manières d'être homme. Soit j'ai des racines. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit avant? Alors comment tu sais que c'est bon? Peut-être que ce que je vais dire maintenant va être une catastrophe. Tu veux pas savoir? Enfin bon, on verra. Non, tu fais ce que tu veux. Tu es bienvenu. Baruch haba, ça va. Bon. Donc, le problème de savoir, il y a deux manières d'être homme. Il y a une première manière qui est d'avoir des racines. Tout homme a des racines. J'aime mon pays. J'aime mon peuple. Je les aime passionnément, mon peuple et mon pays. L'extrême de cette affirmation, c'est « je déteste tout le reste, j'ai la haine ». Parce que aimer, ça veut dire choisir. Ça, c'est la première position. La deuxième position consiste à dire « j'aime le monde entier, je suis un citoyen du monde ». En grec, ça se dit « cosmopolites ». C'est-à-dire, je suis un citoyen de l'ensemble de tout ce qu'il y a. Il n'y a pas en vérité de différence entre les nations, entre les peuples. Tout est une seule... Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Ah, merci. Bon, j'aime le monde entier. Je fusionne avec l'humanité. L'extrême de cette position, c'est « je déteste mes racines, je déteste mon peuple, je déteste ma terre ».
Là, vous traduisez deux choses, voir admirer les choses, donc admirer en tant que futur, admirer les choses et renier le reste en tant que passé, la culture et tout le regard.
Oui.
Et là, vous admirez encore quelque chose de différent, encore carrément dénigrer le passé.
Oui, c'est-à-dire que je tire à l'extrême. C'est-à-dire, dans la réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Tout homme sur terre a des racines et a également de l'universel en lui, c'est vrai. Mais quand ça devient ce qu'on appelle une idéologie, alors une idéologie, ça cristallise des tendances, n'est-ce pas? Donc il y a, ça s'appelle le conflit gauche et droite. C'est-à-dire, un homme ne peut pas vivre sans racines, un homme ne peut pas vivre sans l'humanité. Et donc il y a une sorte de conflit irrésolu chez les Goyims, dans la culture des nations. Si vous voulez, on peut dire à une certaine manière que ce serait le problème de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua si on était schématique, si on était superficiel. D'accord? En vérité, c'est tout à fait faux. Ce problème se pose chez les nations, il ne se pose pas pour les Hébreux, pour une raison très simple. Comment?
On peut accepter l'autre, on peut aimer ses racines, accepter l'autre.
Oui, mais pourquoi? C'est vrai que...
Parce que dans l'idéologie, avoir une idéologie, d'aimer l'autre.
Alors, laisse-moi exprimer ça à travers mes mots plus simples. Je vais essayer d'expliquer. Les nationalismes, ce sont des formes d'égoïsme élargi. Et, si vous voulez, ça devient à un moment ou à un autre ce qu'on appelle l'impérialisme. L'impérialisme, par exemple, culturel. Il y avait à un moment... un empire colonial français. Vous avez entendu parler de ça? Bon. L'empire colonial français s'exprime très bien dans un très bel ouvrage du nom de Tintin au Congo, dans lequel, en fait, on comprend que l'humanité sait de manger de la baguette et d'être abonné au gaz. Et il faut enseigner ça aux nègres dans la brousse, leur expliquer que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Et c'est comme ça qu'on accède à l'humanité. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est l'incapacité, c'est la tentative d'imposer son identité à une autre identité. Aujourd'hui, nous avons un impérialisme culturel américain qui consiste à dire que tout homme sur Terre est un Américain, soit qu'il s'ignore, soit qu'il en est conscient. Quand il en est conscient, c'est le stade où il en est arrivé à consommer des grandes quantités d'hamburgers et de boire du Coca-Cola. Et il y a ceux qui ne le savent pas encore, mais on va leur expliquer. Et après, non, c'est comme ça. Bon, d'accord, il y a différentes formes d'impérialisme. Je ne veux pas rentrer dans toute la liste, ça c'est intéressant. Par exemple, vous savez qu'il y avait une révolution il y a un peu plus de deux siècles dans un pays d'Europe qu'on a appelée la révolution universelle. N'est-ce pas? Ça s'appelait la révolution universelle. Et à quoi elle a abouti, la révolution universelle? Eh bien, à l'impérialisme napoléonien. D'accord, c'est quand même surprenant. Il y a quelque chose de bizarre dans ça. Alors, il y a une autre possibilité, c'est-à-dire on voit les méfaits de l'identité nationale, donc il faut la supprimer. D'accord. Mais dans ce cas-là, hein, ça crée un homme dévitalisé, qui n'a plus de caractère. C'est-à-dire, ça s'appelle de l'uniformisme. Si tout le monde sait la même chose, alors la vie n'a plus de sens. Moi, j'ai ma particularité qui n'est pas la tienne, et la tienne, c'est pas la mienne. Donc, je dois être moi-même tout d'abord. En fait, d'après ce qu'enseigne la Torah, et ça on verra quand nous étudierons Bezrat Hashem, Livre de Bereshit, c'est que il n'y a qu'Israël dont l'identité nationale a pour base la rédemption du monde. Quand Dieu fait l'élection d'Abraham, il lui dit: je vais faire de toi un grand peuple pour que par toi soient bénies toutes les nations de la terre. Toutes les familles de la terre, posément. Ça veut dire que il y a dans l'idée nationale d'Israël, il y a l'universel dès le départ. Donc, chez nous, il n'y a pas de rivalité entre le nationalisme et le cosmopolitisme. Il y a quelque chose d'autre qu'on appelle l'universalisme. Ça veut dire développer une identité nationale qui est au service de l'humanité. Alors si j'ai raison, et je pense avoir raison, alors ça veut dire que plus je suis profondément fidèle à mon identité juive, plus je fais du bien à l'humanité. Tandis que si j'essaye de quitter mon identité juive, en fait, je fais du mal à l'humanité. Et ça s'exprime par exemple dans cette petite controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, si les goyim ont part au Olam Haba ou pas. Rabbi Eliezer, qui défend une opinion pro-cosmopolite, finalement supprime les goyim du Olam Haba. Vous avez compris ? Tandis que Rabbi Yehoshua, qui lui insiste sur la spécificité d'Israël, c'est lui qui introduit l'humanité tout entière dans le Olam Haba. Oui ? Comment ? Pas du tout. La Révolution française s'est prétendue universelle. En vérité, elle était impérialiste. Elle n'a pas dérivé, elle s'est exprimée. C'est-à-dire, la première chose qu'ont fait les conventionnels, c'est d'envahir la Belgique. Hein ? Oui, bien sûr. Ils ont francisé tout le monde.
Ils n'ont pas fait dans l'intérêt d'imposer leur modèle dans
le monde. Si, exactement.
Les Français, les paysans.
Non, je parle de la société. Le paysan, il s'en fichait pas mal. Il ne comprenait rien. Ça, il était incorporé dans l'armée, c'est tout.
Vous parlez de la haute bourgeoisie.
Je parle du pouvoir. Enfin, donc, de la fraction consciente de la société. D'accord ? Bon. Ça, c'était donc pour en finir avec, pour compléter ce que nous avons commencé à étudier la semaine dernière. Pour compléter ce que nous avons étudié la semaine dernière à propos de la controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Jusque-là, vous me suivez ?
Bon.
La halakha est comme Rabbi Yehoshua. Maintenant, je voudrais rentrer plus dans le détail, avec votre autorisation, sur la place de la fête de Rosh Hashanah. Vous savez qu'il y a dans le calendrier de la Torah, je ne parle pas de l'ensemble du calendrier juif, je parle du calendrier tel qu'il est dans la Torah elle-même, il y a 7 jours de fête, n'est-ce pas, qui sont le premier jour de Rosh Hashanah, et puis le jour de Kippour, et le premier jour de Sukkot, et le dernier jour de Sukkot, qu'on appelle Shmini Atzeret ou Simchat Torah, et le premier jour de Pessah, et le septième jour de Pessah, et Shavuot. Ça fait en tout 7. C'est facile à savoir, d'abord parce que je l'ai dit, donc on peut le compter. À part ça, j'avais prévenu à l'avance. D'accord ? Donc il y a 7 jours de Yom Tov, comme on dit, dans le calendrier. Et il y a toute une certaine progression dans cette histoire. Et il y a, sur les 7 fêtes, il y a 4 jours qui font partie de ce qu'on appelle les régalim, et 3 jours qui n'en font pas partie. Alors, je reprends. Pessah, Shavuot et Sukkot sont des fêtes qu'on appelle des régalim. Ce sont des fêtes de pèlerinage, où on se rend dans le temple de Jérusalem et on fait des sacrifices. Ça, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Dans Pessah, il y a 2 jours de Yom Tov, à Shavuot 1, à Sukkot 2. Donc ça fait en tout 4. Non, ça fait 5.
C'est que le premier de Sukkot, là-bas, c'est
important. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Le premier jour de Sukkot. Voilà. Alors, je suis à Tseret, ça dépend à quelle fête ça appartient. Il y a ici un petit problème. Et vous avez encore 3 autres jours, Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah, qui semblent relever d'un autre registre. Alors, c'est le jour où on finit la lecture du... Non, ça ne s'appelle pas Simchat Torah. Ça ne s'appelle pas Simchat Torah. Ça s'appelle Yom HaShemini, 8e jour. D'accord ? Oui ? Alors, mais on ne réside pas dans la soukha. On n'habite pas dans la soukha le 8e jour. Donc, ce n'est pas une fête de soukhot. Alors, savoir comment classer ça, justement. C'est là que il y a des différents indices pour savoir comment classer les fêtes. Vous savez que dans les jours de fête, il y a, en plus du sacrifice journalier, il y a un sacrifice supplémentaire. Comment est-ce qu'on dit un sacrifice supplémentaire en hébreu? Moussaf. Korban, Moussaf. C'est-à-dire le korban, le sacrifice, en plus. Il y a différentes sortes de moussaf. D'abord, il y a ce qu'on appelle avant le moussaf, le sacrifice journalier. Le sacrifice journalier s'appelle korban tamid, le perpétuel, n'est-ce pas? Il est fait de combien de quoi il est fait? De deux moutons, n'est-ce pas? Un mouton qui est présenté le matin et un mouton qui est présenté l'après-midi, n'est-ce pas? Ben Arvin. Le matin et après-midi, on présente deux moutons dans le Beit HaMikdash. Le Shabbat, on rajoute un moussaf. C'est quoi le moussaf, le Shabbat? Ben, c'est encore deux moutons. C'est-à-dire que le jour de Shabbat, on présente combien de moutons? Quatre. Quatre moutons pour le Shabbat. Et si c'est Rosh Chodesh? Non! Quand c'est Rosh Chodesh, alors là, ça devient compliqué. Il y a... Non, c'est très compliqué. Il y a deux taureaux, un bélier, sept moutons, et un bouc. Bouc. Les premiers animaux sont présentés en tant que hola, c'est-à-dire entièrement brûlés sur l'autel. Et le bouc, c'est un hatat. Un hatat, un sacrifice expiatoire. Donc vous avez deux taureaux, un bélier, sept moutons et un bouc. C'est ça qu'on fait à Rosh Chodesh. Et à Pessah. Qu'est-ce qu'on fait le premier jour de Pessah? Non, ça c'est l'après-midi avant. Ça c'est le Corban Pessah, c'est le mouton ou la chèvre. Enfin, soit un agneau, soit un... Alors, comment est-ce qu'on appelle le mâle de la chèvre? Le chevreau, c'est un chevreau. Mais en tout cas, c'est pas notre sujet. Je demande qu'est-ce qu'on fait lors de la fête, le premier jour de Yom Tov à Pessah. C'est quoi le moussaf? Bien, c'est deux taureaux, un bélier, sept moutons et un bouc. Intéressant. Bon. Et le deuxième jour, la même chose. Et la même chose pour le troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Laisse tomber. Il y a pour l'instant, donc, les sept jours de Pessah, le moussaf est identique au moussaf de Rosh Chodesh. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe à Shavuot? C'est plus compliqué. Il y a, pour des raisons que je ne peux pas pour l'instant détailler, il y a trois taureaux, trois béliers, 14 moutons et un bouc. À Shavuot. D'accord? Bon. Qu'est-ce qui se passe le premier jour de Sukkot? Oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'on amène? Le moussaf, on parle de moussaf.
Non.
On amène 14 taureaux. Oui, 14 taureaux. Deux béliers. 14 moutons. Et un bouc. Comment? Oh ben, ils vont acheter dans le... Ben, par exemple, les boucs, ils achètent chez le bouquiniste. Et les béliers, chez le béliérien. Non, non, c'est ça, c'est, non, c'est, non, ça c'est le corban cibour, ça.
Voilà, c'est,
oui, non, non, c'est... Non, non, chacun c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous rappelez... Oui, tout ça, sauf le bouc. Donc, vous rappelez, vous avez donc 14 taureaux, 2 béliers, 14 moutons et un bouc. Qu'est-ce qui se passe le deuxième jour de Sukkot? Non. 13 béliers. 13 béliers. Non, pardon, 13 taureaux. Mais 2 béliers, 14 moutons et un bouc. Qu'est-ce qui se passe le troisième jour? 12. C'est-à-dire ce qui diminue, c'est le nombre des taureaux. D'accord? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. C'est-à-dire que le septième jour, il y a 7 taureaux. Toujours deux béliers, 14 moutons et un bouc. Ça fait combien de taureaux en tout? 70, qui correspondent aux 70 nations de la terre. On vient expier les péchés de l'humanité. D'accord ? 70 taureaux. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah ? C'est quoi le Moussaf de Rosh Hashanah ? Je parle du sacrifice. Non, pas du tout. C'est, tenez-vous bien, un taureau, un bélier, 7 moutons et un bouc. C'est quoi le Moussaf de Kippour ? Un taureau, un bélier, 7 moutons et un bouc. Et le Moussaf de Simchat Torah ? Un taureau, un bélier, 7 moutons et un bouc. Alors vous avez remarqué que selon la classification des sacrifices, il y aura une sorte de dénominateur commun entre Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah. Ça relève d'un certain registre et qui est différent du registre de Pessah, Shavuot et Sukkot. Ce qui justifie le fait d'avoir mis Simchat Torah le 8e jour de Sukkot à part, parce que son sacrifice est identique à celui de Rosh Hashanah et Kippour. Est-ce que là vous avez suivi ? Maintenant, pourquoi parfois deux moutons, parfois deux béliers, parfois un bouc, c'est quoi ces histoires ? Ça, effectivement, ça demande une étude approfondie. Tu as dit, c'est incompréhensible, cela. C'est pas du tout incompréhensible. Ça demande une étude. D'accord ? Bon. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah, c'est quasiment la même chose. Quasiment pareil. J'aime comprendre pourquoi. Il y a, tout d'abord, l'événement central des trois fêtes de pèlerinage, qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est quoi l'événement central dans le Beth Amikdash ? Lorsqu'on fait le pèlerinage dans le Beth Amikdash. Quel sacrifice ? Que le particulier apporte, effectivement. Il amène le particulier rentre dans le Beth Amikdash, il amène un sacrifice. En l'honneur de quoi ? En l'honneur du fait qu'il soit rentré dans le temple. Ça s'appelle Korban Re'iya. C'est-à-dire qu'il est heureux d'être venu dans le temple, et le sacrifice est présenté où ? Sur l'autel, effectivement. Et l'autel, il est où ? Au milieu de la cour. C'est-à-dire là où le peuple se trouve, c'est là que se passe l'événement central avec le sacrifice qui monte. Ça se passe dans la cour. D'accord ? Et là, c'est là qu'on rencontre la face de Dieu. La Torah dit, Yera'e kol zechurecha, tous tes mâles viendront être vus, et pene à Adon Hashem, face au visage de Dieu. C'est quoi le visage de Dieu ? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y aurait une sorte de rencontre, un dialogue de rencontre entre la créature et le créateur. Ça se passe lors des trois fêtes de rencontre, on rencontre le visage. Et ça se passe dans la cour, avec le sacrifice sur l'autel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah ? C'est très différent. D'abord, il n'y a pas de mitzvah de faire le pèlerinage. Il se passe autre chose. Tout d'abord, le jour de Kippour. Passons, disons, à l'intermédiaire, au milieu, au médian. Le jour de Kippour, où quel est l'événement central dans le Beth Amikdash le jour de Kippour ? C'est dans le Kodesh HaKodashim, c'est dans la salle intérieure. C'est à l'intérieur de l'intérieur, à la partie la plus primordiale, la plus originelle. C'est là que se passe l'événement essentiel de Kippour. C'est le Kohen HaGadol qui rentre jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Ben, il présente, il asperge du sang, il présente du Ketoret, il ramasse la pelle, enfin, il y a des tas de trucs, quoi. Il doit rentrer 4 fois dans le Kodesh HaKodashim, à Kippour. Et donc, ça se passe à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur, donc de l'intérieur. C'est-à-dire que si pour voir le visage, il suffisait d'être dans la cour, quand je vois le visage de quelqu'un, est-ce que je vois ce qu'il y a derrière son visage ? Ben non, pas toujours, ça dépend. Parfois je vois l'intériorité, parfois le visage me cache. L'intérieur, comment est-ce qu'on dit visage en hébreu ? Panim. Comment est-ce qu'on dit intérieur ? pénim, c'est le même mot. C'est-à-dire le visage révèle l'intérieur. Mais l'intérieur de l'intérieur, ou l'intérieur du visage, c'est-à-dire l'ifnaï velifnim, à l'intérieur de l'intérieur. Et le Kodesh HaKodashim est appelé l'intérieur de l'intérieur. Quand est-ce qu'on a besoin de revenir à l'intérieur de l'intérieur? Quand, ça ne suffit pas l'intérieur. Il faut l'intérieur de l'intérieur. Vous savez quand? Quand il faut réparer quelque chose. C'est-à-dire, le jour de Kippour, c'est un jour où on répare. On a beaucoup de choses à réparer, on fait l'expiation. Et donc, on rentre à l'intérieur, on revient à la source. C'est-à-dire, le péché, c'est s'être éloigné de la source. Et donc, il faudrait peut-être que tout Israël rentre dans le Kodesh HaKodashim. Pas simplement faire un... envoyer quelqu'un. Bon, mais on est prudent. On se dit peut-être que on a fait des gaffes, alors on envoie un délégué. Il y a quelqu'un qu'on nomme, le Kohen Agadol, et on dit voilà, on voudrait venir avec toi, mais vas-y tout seul, hein, tu nous représenteras. C'est exactement le contraire de ce qui se passe dans les fêtes de pèlerinage. Les fêtes de pèlerinage, c'est tout le peuple qui s'associe. À Kippour, il y a un délégué. Mais il rentre plus profondément. Il rentre à l'intérieur de l'intérieur. Il fait ce qu'on appelle en français une introspection. C'est ça qu'au jour de Kippour, on est capable de faire une teshuva, on revient à l'intérieur. C'est l'intérieur de quoi exactement? Ben, du Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est un lieu topographique. Il y a une topographie du Beth Amikdash, il y a une cour extérieure, et il y a une chambre intérieure, et il faut aller jusqu'à l'intérieur. Et puis, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah dans le Beth Amikdash, à part le Moussaf? Qu'est-ce qu'on fait dans le Beth Amikdash? Ben, le chauffard, évidemment. On sonne du chauffard. C'est ça? Maintenant, il y a une règle importante qui est que, il y a une marloquette à ce propos, mais la halakha est que le chauffard peut être de tout animal pur, un bélier, une antilope, mais pas d'une vache. Il s'appelle le cor. J'ai entendu parler de cet instrument de musique en usage chez les Français au Moyen-Âge, le cor à la chasse.
C'est pas d'un taureau.
Ou le taureau. Ouais. Ni le taureau ni la vache ne sont acceptés pour le chauffard. D'accord? C'est-à-dire que la vache était inquiète de savoir si un homme allait lui couper sa corne pour en faire un chauffard, toute contente quand elle apprend qu'elle en est dispensée, à la vache, à l'homme. Et c'est très bien, c'est très bien. Ça prouve que tu as un sens de l'humour, j'apprécie. Très bien. La corne ne peut pas venir d'un bovin, enfin pas d'un taureau ou d'une vache. Pourquoi? Parce que ça rappelle le péché du veau d'or. Alors on n'est pas intéressé lorsqu'on veut faire, quand on est en jugement, on ne veut pas rappeler nos gaffes, alors on, voilà. Bon. Or, c'est la même raison pour laquelle le Kohen Gadol ne revêt pas de l'or sur ses vêtements lorsqu'il entre dans le Kodesh HaKodashim. Pour la même raison, parce que le veau était en or. Donc on dit, l'accusateur ne devient pas défenseur. N'est-ce pas? Il ne peut pas devenir avocat. Or, l'accusateur, c'est l'or. Donc, on ne va pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec de l'or. Pour la même raison. Mais, quand le Kohen fait son travail dans la cour extérieure, il est revêtu d'or. N'est-ce pas? Et la Guémara dit, pour la même raison, le chauffard de Rosh Hashanah dans le Beth Amikdash ne peut pas être fait par un bœuf ou par une vache, parce que ça rappellerait le péché. Problème, question posée à la Guémara, mais le chauffard, on ne le sonne pas dans le Kodesh HaKodashim, on le sonne à l'extérieur. Or, nous avons très bien dit que c'est uniquement dans le Kodesh HaKodashim qu'on évite de se mettre en accusation avec de l'or, mais dans la cour extérieure, le Kohen est revêtu d'or. Pourquoi, dans ce cas-là, ne prendrions-nous pas un chauffard fait d'une vache? Mais justement, donc la question se pose, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas justement un chauffard fait de taureau ou de vache, puisque ce n'est pas dans le Kodesh HaKodashim?
l'intérieur de l'arbre.
Oui.
Mais à Rosh Hashanah, c'est pas l'intérieur de l'arbre.
Donc dans ce cas-là, on pourrait prendre de la vache.
Bah non, parce qu'on va être dehors à Rosh Hashanah.
Bah non, au contraire, mais dehors, on met de l'or. C'est-à-dire, tout ce qui nous met en accusation ne pose pas de problème dans la cour extérieure. Or, le chauffard dans le Beth Amikdash était sonné dans la cour. Il n'était pas sonné dans le Kodesh HaKodashim. Oui. Et alors? Oui, mais par exemple, à Sukkot, il y a une mitzvah de prendre le loulav dans le Beth Amikdash, et le loulav peut être orné d'or, il n'y a pas de problème. Mais, donc, pour... Oui. Et alors? Oui, alors? Ah, intéressant. Je vais vous dire exactement comment dit la Guémara. La Guémara dit Kevan del zikaron ate, kelifnaï vedifnim dame. Puisque le chauffard vient pour le souvenir, c'est comme si ça se passait à l'intérieur de l'intérieur. Donc nous avons déjà deux formes d'intérieur de l'intérieur. Nous avons une forme topographique, c'est le Kodesh HaKodashim, et nous avons dans la mémoire, c'est également un Kodesh HaKodashim. N'est-ce pas? Vous avez compris pour l'instant? Donc, on ne peut pas prendre de la vache, parce que quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, on ne va quand même pas amener une vache. Parce que c'est quelque chose qui nous met en accusation, comme l'or met en accusation. Donc, vous voyez que vous avez une deuxième forme de Lifnaï et Lifnim. Et on avait dit comment est-ce qu'on complète le triptyque par Simchat Torah, n'est-ce pas? À Simchat Torah, est-ce qu'on rentre à l'intérieur de l'intérieur? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi Simchat Torah? Ben c'est la Torah. Or la Torah est à l'intérieur de l'intérieur. Parce que dans le livre de Michelet, il est dit de la Torah, Yekara hi mi peninim, elle est plus chérissable que les perles. Et c'est quoi peninim? La Guémara comprend là un jeu de mots. C'est plus cher que le Kohen Gadol qui rentre à l'intérieur de l'intérieur. Anichnas ifnai velifnim. Peninim, pnai pnim, ça ressemble. D'accord? Ça veut dire que la Torah est également à l'intérieur de l'intérieur. Donc il y a trois manières de rentrer à l'intérieur de l'intérieur. La manière de Rosh Hashanah, la manière de Kippour et la manière de Simchat Torah. Mais pourquoi? Pourquoi trois manières? Est-ce qu'on ne peut pas, une fois pour toutes, rentrer à l'intérieur de l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de diviser ça en trois manières? Rabbi Yehuda Halevi, dans son ouvrage fondamental, le Kuzari, nous dit qu'il y a trois chemins dans le service de Dieu, qui sont la joie, l'amour et la crainte. L'amour, la crainte et la joie. D'accord ? Ce sont trois manières d'être au service de Dieu. Quand je m'éloigne du Créateur, je dois m'en rapprocher du Créateur. Je le fais soit par amour, soit dans la crainte, soit dans la joie. À Rosh Hashanah, on le fait avec amour. À Rosh Hashanah, on ne parle pas des péchés, c'est interdit. Dans la liturgie de Rosh Hashanah, il est interdit de parler des péchés, de faire le vidouille. On est simplement dans le désir du règne universel de Dieu sur terre. Et ça, on le fait, c'est un acte d'amour. D'ailleurs, c'est là que c'est fait... D'après la tradition, la Akedat Yitzhak, qui était un acte d'amour. C'est fini alors? Bon. La Akedat Yitzhak. À Kippour, je m'occupe, c'est avec la crainte, je m'occupe de mes péchés. Je fais une introspection, je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, je fais teshuva. Et à Simchat Torah, ben, c'est la joie. En fait, c'est parce qu'il y a trois formes de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara de l'homicide, de tuer. Il y a le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Et il y a le Yetzer Hara de la débauche. Ça s'appelle en hébreu, Shfichut Damim, Avodah Zara, Gilui Arayot. Ce qui amène à l'assassinat, c'est le manque d'amour. Et donc, ce que l'on répare le jour de Rosh Hashanah, c'est ce manque d'amour, justement. À Kippour, le manque d'amour! À Kippour, comment? Ouais. À Kippour, on répare la tendance à la Avodah Zara. Et ça se fait avec tout le cérémonial de Azazel, dont il faudra parler dans un des cours à venir. Et à Simchat Torah, eh bien, on repart, c'est par la joie que l'on est sauvé de la débauche. Et pourquoi est-ce qu'on est amené à la débauche? C'est parce qu'on cherche une consolation immédiate dans le plaisir. C'est-à-dire qu'il y a un manque de joie. Quand il y a la joie, il n'y a pas de débauche. Donc vous avez les trois formes. Ça correspond, si vous voulez, aux trois manières d'être Israël, Tzadik, Benoni et Racha. Les Tzadikim, Benoni et Rechaim, c'est-à-dire le juste, le moyen et le méchant, et qui sont réparés dans ces trois fêtes de retour à l'intérieur de l'intérieur. Shalom, c'est tout pour aujourd'hui.